22h et vous écoutez Europe 1. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Un coup de pouce pour les aspirants automobilistes. Le coût du permis de conduire va drastiquement baisser, promesse du président en tout cas. Les auto-écoles s'inquiètent, les profs aussi. Désormais, c'est au lycée que l'on apprendra le code de la route. Emmanuel Macron qui achève ce soir son périple sur les traces de la Grande Guerre. Une tournée dans l'Est qui lui a permis de renouer le contact avec les Français et d'entendre leur colère. La hausse spectaculaire des actes antisémites depuis le début de l'année, plus 69%. Les institutions juives parlent d'un cancer qui gangrène la société et réclame des moyens spécifiques. Une huitième victime retrouvée dans les décombres à Marseille. Le maire et le préfet attendus sur place ont dû rebrousser chemin devant les huées de la population. Dimanche, la place de la République à Paris sera placée sous très haute sécurité. Des groupes d'activistes violents anti-Trump ont prévu de manifester. On entendra aussi dans ce journal la détresse et la colère de cette maman dont le fils est mort hier lors de la fusillade dans un bar en Californie. Il était un survivant de la tuerie de Las Vegas. Lille-Strasbourg, c'est du foot, c'est la Ligue 1, c'est en ce moment match avancé et on suit ça en direct avec vous. Sébastien Bois, toujours score vierge ?
Exactement, toujours pas de but après 60 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy.
Sébastien Bois que l'on retrouvera dans le courant de ce journal pour un nouveau point un petit peu plus long, c'est promis. Je vous rappelle votre rendez-vous tous les soirs à 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général d'Aderma, Stéphane Labattu.
Europe 1.
Et c'est donc l'annonce du jour, annonce surprise. Emmanuel Macron, au dernier jour de son périple sur les traces de la Grande Guerre, a évoqué les difficultés qu'ont certains Français pour financer leur permis de conduire. Et le président a donc fait cette promesse, on va vous aider avec un permis moins cher et plus rapide. Concrètement, François Geffrier, ça se passerait comment ?
Avant de prendre le volant, il faut déjà avoir en tête le code de la route. Emmanuel Macron semble vouloir que les profs de l'éducation nationale se chargent de cette formation-là. Aujourd'hui, au collège, on passe une attestation de sécurité routière, une simple initiation. Le code de la route, ce n'est qu'un dixième de votre budget quand vous passez le permis. Les leçons de conduite sont beaucoup plus chères. Là-dessus, certains patrons d'auto-école ont des propositions à faire. D'abord, utiliser beaucoup plus de simulateurs de conduite, comme font les pilotes d'avions de ligne. Pas de moniteur, mais pas non plus d'accident possible. Autre possibilité, des leçons de conduite à plusieurs. Un élève conduit 30 minutes, puis il passe sur la banquette arrière et regarde son camarade conduire pendant 30 minutes. Ou bien, un moniteur gère deux ou trois voitures en même temps sur une aire fermée. Enfin, on pourrait simplifier toutes les aides financières qui existent pour passer le permis. Il y a celle de votre région, de votre département, il y a le permis à 1 euro par jour. L'idée, c'est que si c'est plus clair, plus de gens utiliseront ces aides.
Les précisions de François Geffrier. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette annonce a vraiment pris tout le monde de court. Surprise jusque dans les ministères et un accueil frileux de la part des auto-écoles, mais aussi des enseignants qui vont donc devoir apprendre le code aux élèves. Écoutez la réaction de la secrétaire générale adjointe du SNES, le syndicat d'enseignants du secondaire, Valérie Sipahi-Malani.
Les enseignants sont pas des formateurs pour le permis de conduire, donc on n'est pas capable de le faire et c'est pas dans nos missions. Et donc si le président de la République veut rouvrir les missions des professeurs, qu'il le dise, et puis s'il veut nous revaloriser, qu'il le dise aussi, mais on peut pas tout faire. Dans les collèges, on fait déjà passer des attestations de sécurité routière qui sont nécessaires ensuite pour s'inscrire dans les auto-écoles. Ce sont des attestations extrêmement simples et qui posent déjà un problème vu que les items qui sont proposés dans ces évaluations ne sont pas explicitement dans les programmes scolaires. Donc c'est déjà une difficulté auquel nous sommes confrontés. On ne voit pas comment on pourrait faire plus actuellement et en tout cas certainement pas dans l'urgence.
La secrétaire générale adjointe du SNES, elle était avec Virginie Salmen d'Europe 1. Le Rassemblement national ironise sur la tentative de redémarrage en côte d'un exécutif en panne sèche de propositions. Notez qu'Emmanuel Macron a aussi promis un coup de pouce pour l'achat d'un premier véhicule. En tout cas, cette semaine qui s'achève aura été riche pour le chef de l'État, notamment avec ses rencontres quotidiennes avec les Français. Et ça a encore été le cas aujourd'hui, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, ce matin, le président a notamment parlé avec une jeune femme qui enchaîne les CDD chez Carrefour. Elle lui a fait part des difficultés que cela engendre dans sa vie. Le chef de l'État lui a répondu qu'il voulait limiter l'usage de ces contrats courts à travers une taxe. Le président qui met d'une certaine manière les pieds dans le plat alors que les négociations entre partenaires sociaux ont justement débuté aujourd'hui. Mais pour Emmanuel Macron, c'est la seule manière de réguler cette question. Écoutez-le.
Ce qu'on va mettre en place, c'est un système un peu de bonus-malus, c'est-à-dire que les entreprises qui favorise l'emploi durable pour les gens et donc la stabilité, elles auront des bonus. Les gens qui font trop de contrats courts, ils auront des malus. Donc ça va les inciter quand même à changer ça. Ça, on le met en place début d'année prochaine pour que des gens comme vous, qui sont méritants, puissent avoir un contrat durable et donc s'installer dans la vie telle que vous le décrivez, vous ne pouvez pas le faire.
Le président Macron qui a terminé son itinérance ce soir dans la Somme à Péronne où il a rencontré des historiens. Une foule d'une grosse centaine de personnes l'attendait. Certains l'ont accueilli par des sifflets. Et finalement, c'était quasiment à l'image de cette semaine où à chaque sortie ou presque, il s'est frotté à la colère des Français sur les carburants ou encore les retraites.
Jean-Rémy Baudeau qui a suivi donc pour Europe 1 ce périple d'Emmanuel Macron. Cet après-midi, vous le disiez Jean-Rémy, il était dans la Somme. Le président était aux côtés de Theresa May, la première ministre britannique. Tous les deux se sont notamment rendus à la nécropole franco-britannique de Thiepval pour rendre hommage aux soldats britanniques tombés pour la France. Merci d'écouter Europe 1. Il est 22h05, c'est la suite de votre journal et l'actualité. C'est aussi ce chiffre spectaculaire. Le nombre d'actes antisémites en France a augmenté de 69% depuis le début de l'année. C'est Édouard Philippe qui l'a annoncé ce matin en ce jour particulier, 80e anniversaire de la nuit de cristal, qui marque le début de la persécution des juifs par les nazis en Allemagne. Chaque agression perpétrée contre l'un de nos concitoyens parce qu'il est juif résonne comme un nouveau bris de cristal, écrit le chef du gouvernement dans une tribune sur son compte Facebook. Le nombre d'actes antisémites était pourtant en baisse depuis 2 ans. Une hausse qui a des origines multiples, d'après Mario Stasi, le président de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme.
C'est un mouvement de fond, c'est absolument pas conjoncturel. Il y a 2 facteurs principaux. Le premier, c'est cette libération de la parole sur les réseaux sociaux où tout est permis sous couvert d'anonymat. Et puis, évidemment, l'antisémitisme qui perdure, que ce soit l'extrême droite nationaliste, populiste qui change de bouc émissaire en fonction des opportunités électorales, que ce soit le musulman ou le juif. Et puis, il y a le mouvement islamiste, communautariste, de repli identitaire, ségrégationniste, qui fragmente la société et qui vise directement la communauté juive. Je pense à ceux qui, sous couvert d'un antisionisme, portent des propos ouvertement antisémites. C'est la convergence des haines qui font que nous arrivons à un chiffre aussi terrible que celui que vous avez rappelé.
Le président de la LICRA, joint pour Europe 1 par Alain Accot. La nuit dernière, des tags antisémites et racistes ont été inscrits sur la maison du maire de Brumath, c'est dans le Bas-Rhin. Tags qui visaient notamment le préfet de la région Grand Est, mais aussi les migrants, avec les mots « juifs » en allemand, à côté d'une croix gammée, ou encore « migrants, raus, dehors les migrants ». On se souvient des perquisitions retentissantes dans les bureaux de la France Insoumise et au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Et bien aujourd'hui, on a appris que 2 informations judiciaires étaient ouvertes. La première relative au financement de la campagne de 2017. La seconde concerne les assistants parlementaires du parti. Réaction de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Enfin, nous revenons à la normale judiciaire. Nous sortons des griffes de l'arbitraire. Une marche blanche sera organisée demain à Marseille à la mémoire des victimes de la rue d'Aubagne dont 2 immeubles se sont effondrés en début de semaine alors qu'un 8e corps a été découvert aujourd'hui, celui d'une femme. Cet après-midi, le préfet et le maire devaient venir sur les lieux mais l'attention était telle qu'ils ont dû rebrousser chemin pour échapper à des manifestants très en colère, Nathalie Chevance.
Oui, avec des slogans que vous pouvez entendre derrière moi. Godin démission, Godin en prison. Le maire de Marseille, il est très tiré, qui a tenu à exprimer ce soir ses condoléances attristées, a-t-il dit, ainsi que sa compassion face à un tel drame. Ce sont ces mots dans un souci visiblement d'apaisement face à la colère de certains habitants du quartier de Noailles. Le maire qui a répété que personne ne serait laissé au bord du chemin. 176 familles, c'est-à-dire un peu plus de 350 personnes, ont été évacuées du secteur de la rue d'Aubagne depuis lundi, logées à l'hôtel aux frais de la mairie qui s'est engagée à trouver de nouveaux appartements pour tous ces riverains. Au total, ce sont 15 d'immeubles qui ont dû être évacués par précaution. Le préfet, lui, précise que le gouvernement a décidé de mandater spécialement plusieurs experts qui vont venir de Paris pour inspecter chaque bâtiment. L'audit sur les logements insalubres annoncé en milieu de semaine par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est donc bel et bien lancé.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Le procès en ce moment du compositeur et trompettiste Ibrahim Malouf, jugé devant le tribunal de Créteil pour agression sexuelle. Il est accusé d'avoir embrassé une collégienne de 14 ans qui était en stage dans son studio d'enregistrement. Pierre de Cossette qui suit pour nous ce procès nous signale à l'instant que le procureur vient de requérir 6 mois de prison avec sursis contre Ibrahim Malouf. Les explications ce soir sur Europe 1 du maire de Chartres qui a refusé qu'une entreprise installe une plateforme logistique sur sa commune. Il y avait pourtant 2000 emplois à la clé. Incompréhension de la population, Jean-Pierre Gorge se justifie ce soir.
Bien sûr que quand on raisonne comme ça, dit 2000 emplois, il va y avoir tous les chômeurs qui vont prendre les places, mais c'est pas ça la vie. Écoutez, l'économie, c'est pas des chiffres comme ça, 2000 emplois d'un côté, puis dans 2000 chômeurs de l'autre côté, et on met les gens dans les cases, c'est bien plus complexe que ça. C'est des emplois qui sont pas bien payés, c'est une activité 3-8. Je vais vous dire, si c'était une entreprise qui nous proposait 2000 ingénieurs, je ne la prends pas non plus. À chaque fois, les entreprises sont arrivées, se sont installées, ont fait leur business, on a fait venir des populations parce qu'il n'y avait pas assez de manœuvres, et elles sont reparties. Et après, ce sont des catastrophes économiques. Et ces entreprises-là, ces entreprises internationales, aujourd'hui, elles font leur business comme ça, elles s'installent. Pour moi, c'est prends l'oseille, tire-toi. Une fois qu'ils se seront installés, soit qu'ils vont automatiser tout ça. Ils vont commencer avec 2000 emplois. Au fur et à mesure, ça va être des robots. Ils auront un positionnement stratégique parce que Chartres est très très bien placé. Et nous, on aura les personnes sur les bras.
Le maire Les Républicains de Chartres, Jean-Pierre Gorge, qui était ce soir l'invité du Grand Journal de Mathieu Béliard sur Europe 1. La méthode forte employée contre Ryanair, et ça a marché. La compagnie irlandaise devait 525 000 euros au conseil départemental de Charente et elle a fini à payer sous la contrainte. L'aviation civile a en effet saisi l'un de ses appareils hier sur l'aéroport de Bordeaux et Ryanair n'a eu donc d'autre choix que d'honorer sa dette pour récupérer son avion. Il est 22h11, c'est la suite du journal. On disait tout à l'heure qu'Emmanuel Macron serait de retour à Paris ce week-end pour les commémorations du 11 novembre, le centenaire de l'armistice de la première guerre auquel assisteront de nombreux dirigeants du monde entier et notamment Donald Trump, dont l'avion vient à l'instant de se poser à Paris. 72 chefs d'État en tout, 10 000 forces de l'ordre mobilisées. Salomé Legrand, d'après vos informations, il y a un point qui inquiète particulièrement les autorités, c'est ce rassemblement anti-Trump qui est prévu dimanche après-midi.
Oui, parce que tous les contestataires se sont donné rendez-vous place de la République à 14h et les services spécialisés ont vu divers groupes de l'extrême gauche radicale s'activer alors qu'ils étaient d'habitude passifs plutôt et venaient à ces rassemblements sans réunion préparatoire. Là, il semblerait qu'ils se sont activés ces derniers jours. Ils craignent donc, les policiers, un noyau dur de 200 à 300 black blocs et autour d'eux, non pas des badauds mais des suiveurs déterminés. Pour mieux les contenir, la préfecture de police n'a autorisé qu'un rassemblement, pas une manifestation avec un parcours dans Paris. Et d'après nos informations, plus de 4000 CRS et gendarmes mobiles sont spécifiquement chargés du maintien de l'ordre pour la journée de dimanche. En anticipation d'interpellations massives, 3 commissariats ont été réquisitionnés pour accueillir les gardes à vue, en plus des structures habituelles.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Notez qu'Europe 1 vous fera vivre ces commémorations avec une émission spéciale dimanche entre 10h et 13h. Sous la houlette de Wendy Bouchard et de Fabienne Lemoyle, vous pourrez témoigner, vous aussi, au 3921. Racontez-nous, par exemple, les souvenirs que vous ont peut-être confiés vos grands-parents. Et notez qu'à 10h, Dominique de Villepin sera l'invité exceptionnel du Grand Rendez-vous. On a découvert aujourd'hui avec stupeur que l'une des 12 victimes de la fusillade de Thousand Oaks hier en Californie était un survivant de la tuerie de Las Vegas. Terrible destin. Sa mère exprime aujourd'hui sa colère face à ces drames qui lui ont volé son fils et qui auraient pourtant pu être évités.
Nous l'avons perdu hier soir. Mon fils était à la fusillade de Las Vegas avec ses amis et il est revenu à la maison. Mais hier soir, il n'est pas revenu. Et je ne veux pas de prières, je ne veux pas de pensées. Je veux le contrôle des armes et j'espère de tout mon cœur que personne ne m'enverra de prière. Je veux le contrôle des armes. Non aux armes.
Suzanne, la maman de l'une des victimes de la tuerie hier dans un bar de Californie. La Californie qui est une nouvelle fois ce soir la proie des flammes. Le nord de l'État, en particulier Paradise, une ville de 26 000 habitants au nord de Sacramento qui a été partiellement détruite. Il y a au moins 5 victimes qui ont été piégées dans leur voiture au milieu des flammes. On passe au sport et on va retrouver tout de suite Sébastien Bouet pour le match avancé de Ligue 1 ce soir. Lille-Strasbourg, c'est le deuxième du championnat contre le septième. C'est important. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Toujours 0-0.
Exactement, 0-0 entre le LOSC et Strasbourg. Attention, les Lillois peut-être pour l'ouverture du score et la parade du portier strasbourgeois. Donc toujours 0-0 après 73 minutes de jeu ici au stade Permoroy. Toujours pas de but, mais que c'est difficile, que c'est compliqué pour les Alsaciens archi-dominés. Ils souffrent ce soir face aux Nordistes. Les stats parlent d'elles-mêmes. 68% de possession de balle pour les Nordistes. C'est déjà 18 tirs, dont 8 cadrés contre seulement
Deux frappes pour les Strasbourgeois, encore les Lillois à l'attaque. Des Alsaciens qui n'ont quasiment jamais réussi à sortir de leur moitié de terrain. Des Strasbourgeois venus clairement pour défendre et prendre un point. Pour l'instant, Étienne Bon face au LOSC. Intraitable pourtant depuis le début de saison au Stade Pierre-Mauroy. 6 matchs, 6 victoires. Mais pour l'instant, ça ne veut pas sourire pour les hommes de Christophe Galtier.
Merci beaucoup Sébastien. Oui, vous savez quoi, on vous retrouvera un petit peu avant 22h30 pour faire un nouveau point sur cette rencontre. Un mot également de la route du Rhum. Au classement, c'est toujours François Gabart qui est en tête devant Francis Joyon et la ligne d'arrivée pourrait être franchi dès ce week-end. On jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Valérie Darmon. Demain, une journée à oublier.
Eh bien, de l'Occitanie au Grand Est, beaucoup de nuages. Le ressenti est automnal avec des pluies qui vont rester faibles à modérées quasiment toute la journée. De la Normandie au Pays de la Loire, en passant par la Bretagne, vous connaîtrez quelques éclaircies. Toujours entrecoupées de pluies, parfois soutenues. Sous les nuages les plus sombres, quelques averses sous forme de grêle sont même attendues. De la Bourgogne, Franche-Comté à l'Auvergne-Rhône-Alpes, peu de chances de voir le soleil ce samedi. Le temps deviendra de plus en plus pluvieux. De la région PACA à la Corse, le temps n'est pas totalement sec ni totalement humide. Il est donc mitigé. Les valeurs du matin douces, entre 3 à Annecy et 15 degrés à Marseille. L'après-midi, entre 12 à Périgueux ou encore à Charleville et 19 degrés à Nice.
La météo, signé Valérie Darmon sur Europe 1. Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général d'Aderma, Stéphane Labattu. A tout de suite sur Europe 1.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17 sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse avec vous, Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Wall Street termine la semaine sur une rechute.
Oui, ça baisse assez nettement d'ailleurs, avec cette perspective de voir la réserve fédérale américaine encore remonter ses taux directeurs en décembre. Du coup, ça plombe l'ambiance de fin de semaine. Le Dow Jones cède 0,77%, 25 989 points. Le Nasdaq recule nettement d'1,65%, 7 407 points. Et les valeurs de technologie retombent assez lourdement, comme Apple, moins 1,9%, 204,47 $, Microsoft moins 2%, Amazon glisse de 2,4% et Cisco de 2,7%. Il y a quand même une exception à la hausse. Walt Disney remonte d'1,6%, 118 $. Le groupe Walt Disney a annoncé des bénéfices très confortables, des bénéfices trimestriels de plus de 2,3 milliards $. Le pétrole chute toujours, ça baisse, ça plonge, ça glisse sous les $60 le baril. Une baisse assez vertigineuse depuis pratiquement un mois, de plus de 20% au global, puisque le baril cote ce soir $59.30, encore en repli d'1,5%, ce qui porte exactement à plus de 21% la dégringolade des cours depuis le début du mois d'octobre. L'euro revient à 1,1330 ce soir face au dollar.
La bourse de Paris aussi, Didier, a terminé la semaine en repli.
Oui, c'est moins net, moins 0,48%, petite baisse, le CAC 40 à 5106 points, qui a préservé donc les 5100 points. Les publications de résultats trimestriels se sont poursuivies avec quelques grosses déceptions, en particulier chez Nexans, aujourd'hui moins 15%. Le fabricant de câbles a lancé un nouvel avertissement financier. Évidemment, il y a de gros dégâts derrière, moins 15% sur Nexans à la clôture. Même chose aussi pour Ruby qui déçoit, c'est plus rare, moins 11%. Et d'ailleurs, tout le secteur pétrolier a poursuivi sa dégringolade avec Total, moins 1,8%, Vallourec, moins 5%, CGG, moins 12,9%, 1,53 €. C'est une chute de 20% sur la semaine sur CGG, donc dans le sillage de cette forte baisse du baril de brut.
Et alors, exception du jour, Danone qui a encore progressé en clôture.
Dans l'agroalimentaire, rien à voir. Donc Danone en hausse de 3,5%, 65,61 €. Troisième séance de hausse consécutive, aidée par des analystes qui visent plus haut sur le dossier Danone qui remonte progressivement. Donc après sa baisse du mois dernier, ça se passe mieux pour le groupe agroalimentaire. Ailleurs, sur les autres places financières, le DAX à Francfort stable, Bruxelles plus 0,1%, mais Madrid a perdu 0,5% et Milan moins 0,9%. On rappelle le CAC 40 en baisse de 0,48%. 5106 points.
Merci pour ce tour d'horizon, Didier Hamot de boursier.com. Et à 22h19 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité écho avec vous, Emmanuel Duteil. Vous recevez ce soir le directeur général d'Aderma.
Bonsoir Stéphane Labattu.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête d'Aderma. Alors Aderma, c'est un grand spécialiste de la dermatologie, un bien connu. C'est une filiale d'un très grand groupe, puisque filiale du groupe Pierre Farm. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est parce que Europe 1 est partenaire du Salon Made in France. Et quand on a regardé les différents exposants qu'on va trouver ce week-end à ce Salon Made in France, qui va se tenir Porte de Versailles à Paris, on a trouvé Aderma. Question toute bête, pourquoi aller à ce genre de salon pour affirmer qu'on est Made in France?
Mais écoutez, tout d'abord, on y a participé l'année dernière et on a été absolument ravis de cette participation. Le Made in France, pour nous, c'est un point de communication extrêmement important. C'est vrai pour les laboratoires Aderma, mais c'est vrai pour le groupe Pierre Fabre d'une manière générale, puisque, comme vous le savez probablement, le groupe Pierre Fabre est ancré dans le territoire du Sud-Ouest, produit...
Tout autour de Castres.
Absolument, dans le Tarn, et plus largement dans l'Occitanie.
C'est vrai que chez vous, on dit il faut être local pour être global. J'ai lu ça dans plusieurs articles.
Absolument, où on dit aussi être partout tout en étant là, s'ancrer localement, mais se développer internationalement.
Quand vous dites on y allait l'année dernière et on a été très content, c'est-à-dire que vous avez un retour, ça veut dire quoi avoir été très content? Ça a permis d'augmenter vos ventes, ça a permis d'augmenter votre notoriété, ça a permis quoi?
Non, c'est surtout que ça nous permet d'aller à la rencontre de nos consommateurs, de leur faire vivre des expériences. Et là, pendant ce salon d'ailleurs, on va mettre en place plusieurs ateliers qui nous permettront, quelle que soit la marque d'ailleurs, hein, c'est vrai pour Aderma, mais c'est vrai pour les autres marques comme Aven, Clorane, Ducray par exemple, on va pouvoir présenter nos nouveaux produits, des ateliers de texture, des ateliers maquillage, coiffure. On rencontre nos consommateurs, on voit avec eux comment nos produits sont perçus et ça nous permet d'avoir un lien direct avec eux.
Le Made in France, vous disiez, c'est un de nos axes principaux de communication. Il y a plein de labels sur le Made in France, c'est difficile de s'y retrouver. Comment on fait justement pour que ce soit pas que de la com?
Alors, sur le Made in France, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on regarde aujourd'hui dans les critères de choix d'achat d'un produit, quel qu'il soit d'ailleurs, mais c'est vrai pour la cosmétique, pour le consommateur, le Made in France est le deuxième élément le plus important après la composition du produit dans son acte d'achat quand il s'agit de la qualité d'un produit. Donc nous, on le met en avant déjà sur nos packaging, hein, en facing sur le produit, et puis on le valorise complètement dans la mesure où Aderma, en l'occurrence, organise tout son développement en circuit court et en économie circulaire. Donc ça nous permet aujourd'hui de communiquer à nos consommateurs le fait que eh bien on a une empreinte carbone extrêmement courte entre le moment où on développe nos produits en R&D, le moment où on extrait ou on cultive notre avoine réalba en agriculture biologique, le moment où on l'extrait, où on le produit, et après le moment où on le commercialise.
Alors ça, c'est vrai pour les clients français, mais j'imagine que c'est peut-être encore plus vrai pour les clients étrangers. Je crois que vous exportez environ la moitié de votre production, en tout cas vous vendez la moitié de votre production à l'étranger. Le Made in France, quand on sait que la dermatologie est quasiment une spécificité française, il y a quelques très très grandes marques dans le monde, mais il suffit de voir les files d'attente devant les grandes pharmacies parisiennes ou dans les grands magasins parisiens pour voir à quel point ça compte à l'étranger.
Ah, c'est un gage de qualité, un gage de sécurité. Effectivement, dans certains pays, ça fait la différence. D'autant que dans certains pays, il y a également des problèmes de contrefaçon, hein, qui peuvent exister. Et le Made in France est un formidable outil de communication. Même si on voit monter des préférences nationales aussi dans d'autres pays que la France.
Dans quel pays, par exemple?
Par exemple, en Espagne, il y a des marques locales qui sont en train de se développer. Qui joue sur le côté national également. Donc c'est une tendance, je crois, quand même de fond qu'il faut prendre en considération.
Alors si le Made in France ne suffit plus, vous, comme vous avez déjà un petit peu énoncé, Stéphane Labattu, je rappelle que vous êtes le patron de la marque de dermatologie Aderma. Il n'y a pas que le Made in France chez vous, puisqu'il y a le circuit court autour d'une agriculture biologique, puisque pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas encore très bien votre marque, tout est à base d'avoine réalba. Alors moi, en préparant cette interview, j'ai découvert l'existence de l'avoine réalba. Je suis peut-être pas le seul.
On a la chance, en fait, d'avoir un actif qui s'appelle l'avoine réalba, qui a des propriétés dermatologiques très bienfaisantes, hein, qui vont réparer, apaiser, rééquilibrer les peaux les plus fragiles. Et cette avoine réalba, effectivement, on le cultive en circuit, en agriculture biologique.
Vous avez acheté des terres que vous avez transformées en champ biologique avec une bastide magnifique là, du XVIIe siècle. Vous avez repensé même le modèle il y a quelques années. Je crois que vous l'avez acheté en 2010, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, absolument. Donc, on maîtrise l'intégralité de la chaîne et on produit nous-mêmes notre avoine. Une variété d'avoine qu'on a choisie parmi 26 000, justement pour ses propriétés tout à fait spécifiques en dermatologie.
Comment un jour on se dit, tiens, c'est celle-ci et c'est pas les 25 999 autres?
Eh ben ça, c'est pratiquement une vingtaine d'années de recherche et de développement, qu'on doit d'ailleurs à notre fondateur, Monsieur Fabre, hein, qui a très vite identifié l'avoine comme étant une plante très intéressante en dermatologie, qui était utilisée depuis des millénaires d'ailleurs pour ses propriétés apaisantes, qui a lancé les équipes de recherche là-dessus et qui du coup a demandé, ben voilà, il me faut l'avoine la plus dermatologique, celle qui est la plus efficace, la plus sûre pour les peaux les plus fragiles. Et après une dizaine d'années de recherche supplémentaires, pour déterminer qu'en fait, c'était une partie spécifique de l'avoine réalba qui était intéressante, c'était la plantule, donc la petite pousse d'avoine à 12 semaines. Et c'est de cette plantule-là qu'on extrait donc notre actif après 27 fois de contrôle.
Il fallait avoir une chance de pouvoir la produire chez vous dans le sud-ouest.
Et il fallait effectivement qu'elle réponde à des critères agronomiques qui nous permettaient effectivement de la faire pousser dans le sud-ouest dans des conditions donc d'agriculture biologique, donc sans pesticides.
Et chez vous, il ne peut pas y avoir de phénomène de rareté, c'est-à-dire que vous êtes sûr d'en avoir assez en production, parce que je me disais, si la marque continue de croître assez rapidement, parce que vous connaissez quand même une croissance assez forte sur le marché de la dermatologie, eh bien à un moment, il va en manquer de cette avoine.
Alors non.
Il va falloir agrandir vos terres.
Alors voilà, on est tout à fait capable d'agrandir la culture de notre exploitation, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs année après année, car comme vous le soulignez, nous rencontrons de plus en plus de consommateurs avec Aderma.
Ça reste malgré tout une marque récente, hein, au regard de, notamment des grandes marques françaises de dermatologie. C'est jamais facile de créer une nouvelle marque sur ce genre de marché, même si on a vu hein, des petits groupes, que ce soit Nux, que ce soit Caudalie, qui se sont créés et qui ont réussi sur des tout petits marchés à faire une grosse percée. C'est ça la réussite aussi d'une marque comme Aderma, c'est d'avoir trouvé cette espèce de toute petite niche et d'y être allé à fond.
C'est vrai, c'est une marque unique. On se dit être la seule marque de dermatologie végétale du marché. Et on se rend compte qu'elle rencontre de plus en plus de consommateurs et de patients et qu'elle se développe très harmonieusement.
Eh bien, on va vous souhaiter un bon salon d'une Made in France. Merci beaucoup d'être passé par les studios d'Europe 1, ce salon Made in France dont Europe 1 est partenaire. C'est tout ce week-end à la porte de Versailles à Paris. Nous, on se retrouve lundi 22h20 sur Europe 1.
À lundi, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les infos que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Dans Ouest France, François-Xavier Lefranc revient sur les commémorations dimanche du centenaire de l'armistice de 1918. Il commence son édito par un extrait d'une lettre écrite par un poilu. « Mes chers parents, j'en avais vu de cruelles sous le feu de la mitraille, mais pas comme celle-là. Et combien de choses que je ne puis vous raconter ici. Le régiment n'existe plus, nous devons être moins de 300. Qu'allons-nous devenir ?» Comment célébrer cet anniversaire, s'interroge François-Xavier Lefranc, sans prendre conscience des mauvais vents du populisme et du nationalisme qui souffle aujourd'hui sur l'Europe. On ne peut pas comparer l'état du monde il y a 100 ans à ce qu'il est aujourd'hui. Mais l'histoire nous rappelle que la paix est fragile, elle ne va pas de soi. L'œuvre des Européens qui ont su, par leur détermination, dépasser l'esprit de revanche pour construire la paix, cette œuvre doit être poursuivie. Nous le devons à tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur. À propos de champ d'honneur, la photo du cimetière de Fleury devant Douaumont dans la Meuse est à la une de Libération. Avec ses tombes à perte de vue, 16 142 soldats y sont enterrés. Libération qui titre 1918-2018, la paix, ce chemin de croix. Dans le journal La Montagne, Bernard Stéphan évoque quant à lui la fin de l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron qui, dit-il, nous ramène aux préoccupations de l'Europe d'aujourd'hui. Le président a répété au cours de ces dernières semaines qu'elle était en danger. Le miroir de ce déchirement du vieux continent au début du XXe siècle qui a conduit à la grande boucherie de 14-18 nous rend voit l'image de l'Europe de 2018. Une Europe tiraillée par les forces nationalistes, déstabilisée par le Brexit et plus que jamais incertaine sur son destin. En consacrant les deux dernières journées de son périple à Theresa May sur l'ancien front de la Somme et à Angela Merkel dans la clairière de Rotonde, le président rappelle que le lien avec nos voisins doit être plus fort que tous les différends. Au moment de commémorer ce centenaire, à l'heure des fractures, il était nécessaire de redire que l'Europe est essentielle pour au moins une bonne raison, la paix. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon des unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Et on va faire un nouveau détour par Lille pour le match de Ligue 1. Lille-Strasbourg, Sébastien Bouet, c'est presque la fin et toujours 0-0.
Exactement, nous venons de rentrer dans le temps additionnel, 4 minutes de temps additionnel, toujours 0-0 et sur le score. On restait là, les Strasbourgeois seraient les premiers à empocher un point cette saison au stade Pierre-Mauroy où les Lillois sont intraitables. Pourtant, 6 matchs, 6 victoires, des Alsaciens qui sont clairement venus pour défendre ce soir. Et pour l'instant, ça fonctionne, même s'ils souffrent. Ils souffrent, c'est compliqué pour eux ce soir. Et ils tiennent bon malgré tout face à des nordistes archi-dominateurs. 68% de possession de balle, 18 tirs déjà pour les hommes de Christophe Galtier avec 8 frappes cadrées contre seulement 2 frappes pour les hommes de Thierry Véloré. Et avec ce point qui se profil, eh bien, le LOSC devrait remonter provisoirement à la deuxième place du classement devant Montpellier. Encore 3 minutes et 30 secondes à jouer, toujours 0-0.
Merci beaucoup Sébastien Bouet. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie ce soir de Sabine Marin pour la Libre Antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Isabelle.
Tout va bien ?
Tout va bien. Je vous retrouve dans une demi-heure, c'est ça, pour le prochain point.
À tout à l'heure.